Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Est-ce que vous croyez ça? Alors, question en débutant. Vous êtes prêts? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de commencer un projet, mais d'être tenté de tout arrêter en cours de route, mais de continuer quand même? Oui, ça arrive des fois qu'on a des creux de vague. Hein. Ça peut être par exemple des rénovations à la maison. Là, tu es plein de fougue, tu veux rénover ta maison. Ou la pratique d'un sport, là, je veux me mettre à tel ou tel sport. Ou participer à du bénévolat, une association. Tu es à deux doigts de tout lâcher, mais tu finis par trouver la motivation et tu continues. Waouh! Alors ce matin, pour la deuxième prédication de notre série sur les vertus théologales, c'est quoi les vertus théologales? Voilà. Alors, on va rester dans la lettre aux Hébreux. On s'y sent bien dans la lettre aux Hébreux. On va rester là. Hier, on avait vu à quoi ressemblait la foi d'Abraham. Hein? C'était dans Hébreux 11. On avait vu que c'était une foi basée sur un appel, une foi basée sur des promesses de Dieu, une foi éprouvée qui se met en marche, qui perce l'invisible, une foi qui persévère. La foi d'Abraham. Quelle foi! Alors, ce matin, je vous invite à prendre avec moi le chapitre 6 de la lettre aux Hébreux. On va lire des versets 10 à 20. Je vais lire dans la version Louis II. Et que tous ceux qui le peuvent se lèvent pendant la lecture. Ceux qui sont capables de se lever, s'il vous plaît, on se lève pour écouter la bonne parole du Seigneur. Hébreux 6, versets 10 à 20. Je lis. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et il dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de sa promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. On va arrêter la lecture ici. Je vous invite à prendre place. Je vais prier. Ah Seigneur notre Dieu, combien ta parole est bonne. Combien elle est puissante et combien elle répond aux besoins d'un cœur humain. Alors ce matin, nous te prions que tu disposes nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, que tu nous parles. Nous avons envie de dire comme le jeune Samuel au grand prêtre Élie, « Parle, car ton serviteur écoute. » Seigneur, rends-nous capables d'entendre ta parole et de la vivre. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous l'avez remarqué, une fois de plus, Abraham, il est au cœur de notre passage ce matin. Non seulement Abraham, c'était un homme de foi, on l'a vu dans le premier message, mais c'était aussi un homme rempli d'espérance. Et c'est donc le thème qu'on va voir aujourd'hui, l'espérance. Et voilà le plan que je vous propose pour le message. Un plan tout simple, comme on est au deuxième message, on va garder le thème 2, on va voir deux profils, deux définitions, deux dispositions et deux images. Donc facile, hein? Deux profils, deux définitions, deux dispositions et deux images. Quatre points. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va essayer de découvrir le contexte de notre passage de l'Épître aux Hébreux. Eh bien, on ne sait pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Est-ce que c'est Paul? Est-ce que c'est Barnabas? Est-ce que c'est Apollos? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On ne sait pas. On ignore. La lettre n'a pas été signée. Mais l'auteur, qui qu'il soit, l'auteur au tout début du chapitre 6 de la lettre aux Hébreux, on n'a pas lu les versets 1 à 9, mais au début de la lettre, il avertit solennellement certaines personnes qui sont tentées de tout laisser tomber. Grosse tentation de tout laisser tomber, d'abandonner. Alors, c'est pas nouveau, hein? Plein de gens autour de nous commencent un projet et vont pas jusqu'au bout. Ça nous est sans doute déjà arrivé à nous aussi. Vous l'avez manifesté tout à l'heure. Alors, la plupart du temps, arrêter au milieu d'un projet, ça a des conséquences, mais jamais aussi graves que celles à qui la lettre aux Hébreux a été écrite. Qu'est-ce qui se passe dans Hébreux 6? Alors, certains ont commencé à découvrir la foi chrétienne. Au début, c'est un petit peu comme dans la parabole du semeur. Ils ont reçu la parole avec joie, mais une fois la nouveauté passée, tout s'est compliqué. Ça n'a plus été aussi facile. Alors pourquoi avoir envie de regarder en arrière? Selon le contexte d'Hébreux 6, c'est pour éviter les outrages, les violences, les persécutions. Les personnes qui ont flirté avec l'Évangile à cette époque-là, ils se disent que s'ils décident de retourner vers leur ancien mode de vie, vers leur ancienne religion, ils auront plus à souffrir. Alors au début du chapitre 6, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dresse le portrait de ceux qui veulent tout arrêter. On va les nommer les sans-espérance. Qui sont ces gens-là, les sans-espérance? Eh bien, ce sont des personnes religieuses. La preuve en est qu'ils vont aux réunions d'église et l'auteur leur écrit une lettre. Ce sont des gens qui sont d'origine juive, mais, il y a un mais, ils ne veulent pas d'ennui. Ils refusent de prendre position. Ils cherchent à faire le moins de vagues possible. Leur engagement envers Dieu est provisoire et partiel. En fait, ils ne sont pas vraiment chrétiens, en tout cas pas encore. Il y avait apparemment un certain nombre de ces personnes dans les assemblées à l'époque où l'auteur écrit la lettre. Qu'est-ce que ces gens-là font parmi les frères et sœurs? Ben, peut-être c'est l'ambiance dans l'église qui a dû les attirer, peut-être que c'est les chants, ils aiment bien, peut-être que c'est l'amitié des autres croyants, peut-être leur valeur morale. Mais l'attachement personnel à Jésus leur fait défaut. Tant que tout allait bien pour ces gens-là, Jésus, pourquoi pas? Mais quand la pression est montée d'un cran, ils ont cherché un plan B. Et là, Dieu leur fait voir l'extrême péril, le danger qu'il y a à placer ses espoirs, par exemple, dans sa religion, ou dans sa fortune, ou dans son confort personnel, ou dans sa réputation, mais pas en Christ. Pas en Christ. Ça, c'est dangereux. Hébreux 6, versets 1 à 9, doit avoir eu un effet d'électrochoc pour eux. Et les exhortations sont dures, je vais lire les versets 4 à 8. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Ce sont des paroles terribles. Qu'est-ce que l'auteur cherche à faire ici? L'auteur souhaite avant tout produire la repentance chez ces gens-là qui hésitent, qui sont indécis. Ils désirent faire naître un mouvement vers Dieu dans leur cœur. Il veut que ces personnes qui restent sur la clôture prennent position. Hébreux 6, 1 à 9 nous montre à quoi ressemble une personne sans espérance. Elle se trouve au bord d'un précipice, dans un péril extrême. Elle est perdue. Mais voyez, au début du verset 10, tout à coup, le ton change. Il y a comme un contraste. Vous l'avez certainement remarqué. Notre texte veut tout à coup très rassurant, plus de menaces. On va lire Hébreux 6, versets 10 à 12. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Première constatation. Dans son évaluation, Dieu ne met pas tout le monde dans le même panier. Vous avez remarqué ça? Dieu ne traite pas de manière indistincte ses enfants et ceux qui ne le sont pas. C'est rassurant pour ceux qui sont enfants de Dieu. Dieu voit les cœurs. Ceux que Dieu rassure, ce sont ceux qui ont été changés par lui. Dieu les a touchés, Dieu les a transformés, Dieu leur a donné un cœur nouveau, et ceux-là, il veut les encourager. Je relis une partie du passage. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Alors, qu'est-ce qui distingue les gens que Dieu encourage de ceux qu'il avertit sévèrement? Qu'est-ce qui les distingue? Ceux que Dieu avertit dans les 9 premiers versets, ils ont bien sûr commencé la course. Ils ont bien commencé, mais contrairement aux autres, quand sont venus les temps difficiles, ils ont tout abandonné. Mais ceux que Dieu encourage, eux, ont continué malgré les épreuves. Malgré les épreuves. Alors, à quoi ressemble la vie de ceux qui s'accrochent? On le voit des versets 10 à 11. Ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui s'aiment entre eux. Ce sont des gens qui rendent service aux autres, qui ont du zèle, qui persévèrent jusqu'à la fin, qui héritent des promesses. Et quel est le secret de leur endurance, de leur persévérance? C'est leur espérance. C'est leur espérance. Leur espérance leur permet de vivre en communion avec Jésus et de le servir, de témoigner pour lui au milieu des épreuves et des difficultés. Parce que vous le savez, la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hébreux 6 nous présente donc le profil de ceux qui sont sans espérance et de ceux qui ont une pleine espérance. Deux profils, deux trajectoires différentes. Question. Où te situes-tu aujourd'hui? De quel groupe fais-tu partie? Plein d'espérance? Sans espérance? Êtes-vous de ceux qui espèrent ou de ceux qui désespèrent? Êtes-vous de ceux qui s'accrochent dans les difficultés ou de ceux qui abandonnent? Alors, arrivé à ce stade-ci du message, je me rends compte qu'on n'a pas encore pris le temps de définir ce que c'est que l'espérance chrétienne. Je dirais qu'il faut d'abord la distinguer de ce qu'on appelle communément l'espérance dans notre culture ou dans le monde. Qu'est-ce que l'espérance dans l'esprit d'un Québécois moyen, monsieur tout le monde? Quand on parle d'espérance dans notre culture, on parle de quelque chose qu'on souhaite vivement, ardemment, mais dont on est loin, loin, loin d'être sûr. Par exemple, j'espère une promotion au travail, une augmentation de salaire. J'espère gagner à la loterie. J'espère qu'il va faire beau demain. Hein, les gens disent ça, j'espère, j'espère. autant de souhaits dont on ignore la réalisation future. Pourquoi ? Parce qu'on ne contrôle pas l'avenir. On ne connaît pas, on ne contrôle pas la météo. On n'est pas non plus dans la pensée de notre boss pour savoir s'il veut nous donner cette promotion à nous ou à quelqu'un d'autre. Donc l'espérance humaine, elle est incertaine. Elle déçoit souvent. Qui n'a pas vu un jour l'un de ses espoirs se fracasser contre le dur mur de la réalité ? Qui n'a pas vu ça ? Hein, on a tous vécu ça. Si par exemple, on place son espérance que dans les progrès de la science, tu as un enfant malade, tu te dis « la science va régler le problème ». Tu peux être déçu. Si on met nos espoirs dans la bonne volonté des hommes politiques à œuvrer ensemble pour la paix en Ukraine, dans la bande de Gaza, si notre espérance se fonde sur la capacité de notre monde à changer et à se réformer, ou sur l'espoir que la nature humaine peut-être devienne plus généreuse ou plus bienveillante un jour, si on se fonde sur ça, permettez-moi de vous dire qu'on est mal. On est cuit. On ne peut pas compter sur le fait que tous ces beaux vœux arrivent un jour. Mais l'espérance chrétienne, heureusement, elle est d'une toute autre nature. Alors comment définir l'espérance que Dieu donne ? Comment la distinguer de la foi, par exemple ? Parce que la foi et l'espérance, vous l'avez remarqué, ce sont deux jumelles presque identiques. Presque. J'ai une définition de John Piper que j'ai trouvée très, très utile. Piper dit que la foi, c'est notre confiance en la parole de Dieu. Et chaque fois que cette confiance fait référence au futur, vous pouvez l'appeler espérance. L'espérance, c'est donc la foi conjuguée au futur. John Piper. J'ai trouvé ça très utile. Une autre définition complémentaire, j'ai trouvé sur le site God Questions, ils disent que l'espérance, c'est la ferme assurance de la réalisation des choses encore invisibles et inconnues, basée sur Romains 8, 24, 25, Hébreux 11, 1 à 7. Alors, selon nos deux définitions, si on les met ensemble, on pourrait découvrir que l'espérance chrétienne est fondée d'abord sur la Bible. Elle est tournée vers l'avenir. Elle est encore invisible, mais elle est certaine. Elle est certaine. Question. Est-ce le genre d'espérance que vous avez ce matin? Fondée sur la Bible, tournée vers l'avenir, encore invisible, mais certaine. En tout cas, c'est celle que Dieu veut que nous ayons. Alors, après les deux profils, après les deux définitions, on va passer maintenant à notre troisième point, les deux dispositions. Comment Abraham a-t-il vécu cette espérance au jour le jour pendant son pèlerinage terrestre, son cheminement sur notre petite planète? Alors, on va relire les versets 13 à 15. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Abraham n'a pas vécu son espérance au jour le jour en essayant de se convaincre lui-même. Vous voyez que des fois, on essaie de pomper la pompe. Il n'a pas fait ça. Comme on le voit au début du verset 13, tout a commencé avec Dieu. Et exactement comme pour la foi, l'espérance d'Abraham est née et s'est fondée dans le caractère d'El Shaddai, le Tout-Puissant. Dieu a d'abord parlé à Abraham, verset 13. Il a fait une promesse. J'aimerais dire ceci. Aucune espérance chrétienne n'est possible si Dieu ne parle pas. Impossible, à moins que Dieu parle. Je ne sais pas si on prend ça pour acquis, mais nous, les chrétiens, On a l'immense privilège d'avoir un Dieu qui parle. Dans d'autres religions, ça ne va pas de soi que la divinité parle. Une statue, ça ne parle pas. Notre Dieu communique avec nous. Il se révèle par sa parole, la Bible. Si Dieu ne nous disait pas dans sa parole qui il est, ce qu'il pense, ce qu'il aime, on ne pourrait jamais le savoir intuitivement. Impossible. Dieu a parlé à Abraham. Mais ici, au verset 13, il est écrit que non seulement Dieu a parlé, il est écrit qu'il a promis. Quelle est la différence entre parler et promettre? Est-ce que c'est pareil? Eh bien non. J'ai trouvé cette définition de ce que c'est une promesse. Elle vient de Carole Berset, une philosophe originaire de Suisse. Il y a des bonnes choses qui viennent de la Suisse, c'est vrai. Promettre, c'est exprimer l'intention de faire pour autrui une certaine action dans un futur plus ou moins proche. De plus, la promesse a ceci de particulier que lorsqu'un individu promet, il génère également l'obligation de s'en tenir à sa parole, et lorsqu'un individu promet, il s'engage envers autrui en lui donnant sa parole, il se rend ainsi responsable de cette parole envers celui ou celle à qui il a promis. On va faire l'exégèse de ça. On va essayer de comprendre. Comme on le voit d'après cette définition, la promesse, c'est une parole, oui, mais pas une parole ordinaire. C'est une parole qui comporte trois notions importantes. D'abord, l'obligation. Ensuite, l'engagement. Et ensuite, la responsabilité. Obligation, engagement, responsabilité. Autrement dit, promesse, c'est s'obliger à faire la chose qu'on a dite. Promettre, c'est s'engager à tenir sa parole. Et promettre, c'est être responsable envers l'autre de faire ce qu'on s'est entendu de faire. Petite parenthèse. Je nous encourage tous à nous rappeler cette définition avant de promettre quoi que ce soit à quelqu'un d'autre d'une manière légère, comme on fait souvent. « Ah, je te promets, là, que... » Obligation, engagement, responsabilité. Mais on se pose la question, pourquoi Dieu a-t-il besoin, lui, de promettre? Nous, on sait bien pourquoi on promet. Parce qu'on est faillible, parce qu'on est faible, on est pécheur. Mais Dieu, quand il parle, n'est-ce pas évident que ce qu'il dit va toujours arriver? Genèse 1:3, que la lumière soit... Et la lumière fut. Psaume 33, verset 9. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Dans l'absolu, Dieu n'aurait jamais besoin de promettre. Sa parole est puissante, elle est vraie, elle est créatrice, elle suffit largement. Mais ici, Dieu veut tellement convaincre Abraham que ce qu'il dit va s'accomplir, il veut tellement qu'il promet. Il veut tellement lui donner une espérance forte qu'il s'engage. Quelle condescendance! Alors bien sûr, quand un être humain promet, on est rassuré, sauf si la personne qui promet n'est pas fiable. Par exemple, peut-être un homme politique en campagne électorale qui veut avoir des votes. Il va te promettre la lune, mais... Ou un vendeur de balayeuses qui veut vendre son produit, il va te promettre, mais... Caractère. Ici, c'est Dieu qui promet. Le Dieu saint, le Dieu pur, le Dieu de vérité. Dieu donc promet. Mais, dans notre texte, il y a une deuxième disposition plus forte encore. Ce qui va produire une espérance à toute épreuve dans le cœur d'Abraham, c'est que Dieu jure. Alors, je me suis amusé à aller voir ce que ça veut dire faire un serment ou jurer. J'ai trouvé une petite définition dans dictionary.com. Jurer par serment, c'est faire, et je cite, c'est faire un appel solennel à une divinité ou à une personne ou à une chose vénérée pour témoigner de sa détermination à dire la vérité et à tenir promesse. Vous voyez, c'est très, très, très fort. Solennel. Il y a une détermination. Et le texte nous le dit, normalement, on jure sur plus grand que soi. Mais Dieu, lui, ne peut pas jurer sur plus grand que soi. Il jure sur lui-même. Waouh! Un engagement qui dépasse de loin la simple parole ou la simple promesse. Dieu jure à Abraham sur lui-même au sujet de sa postérité. Tu auras un enfant et ton peuple sera aussi nombreux que le sable de la mer et les étoiles du ciel. Quel engagement! Alors vous comprenez pourquoi Abraham peut être si certain. Et j'aimerais dire que pour nous, c'est la même chose. Le pardon des péchés, la vie éternelle, le corps glorifié, la délivrance des maladies, de l'injustice un jour, du mal sous toutes ses formes, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, c'est du béton. C'est fondé sur le caractère du Dieu de qui le texte nous dit qu'il est impossible qu'il mente. C'est pas possible. Si Dieu ment, il n'est pas Dieu. Verset 18. Alors, quand vous lisez dans la Bible toutes les promesses de Dieu pour le salut, toutes les promesses qui concernent la persévérance finale, la gloire à venir, vous rendez-vous compte que Dieu ne peut absolument pas mentir. Il l'a promis. Il a juré. Quelle assurance! Quelle sécurité! Deux profils. Ceux qui espèrent et ceux qui sont sans espérance. Deux définitions, l'espérance dans le monde, l'espérance dans la Bible. Deux dispositions, une promesse, un serment. On va passer maintenant à notre quatrième et dernier point. Notre passage se termine par deux belles images fortes pour décrire l'espérance. La première, elle est tirée du monde de la navigation. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment faire un peu de navigation, voilier, tout ça? Non? Un peu? En tout cas, c'est tiré de ça. Verset 19. « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. » Question. À quoi ça sert une ancre? À fixer, à stabiliser. On jette l'ancre d'un bateau pour l'empêcher d'aller à la dérive. Quand une embarcation, un bateau, n'est pas bien ancré au fond de l'eau, le moment où la tempête vient, cette embarcation est ballottée, elle risque de chavirer, de se fracasser contre d'autres bateaux ou contre la rive. On jette l'ancre, le bateau est fixé. L'espérance que Dieu donne fixe notre âme en Dieu. Notre âme est fixée en Dieu. Au lieu d'être ballottée à tout vent de doctrine, au lieu de faire naufrage quant à la foi, nous sommes stabilisés. Hébreux 6 emploie deux adjectifs pour décrire le genre d'espérance, le genre d'espérance que l'Évangile nous procure. Deux adjectifs. Premier adjectif, notre espérance est certaine, sûre. Ça veut dire que rien ni personne ne pourra jamais la remettre en cause. Romains 5:5 nous dit que nous avons une espérance qui ne trompe point, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Une espérance qui ne trompe pas. Pas comme les espoirs fragiles et chambranlants que notre monde nous propose, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous vous souvenez de la pandémie. Pendant la pandémie, on a du mal à ne pas l'oublier, hein, on garde ça à l'esprit. Pendant la pandémie, il y avait dans les fenêtres des commerces, des maisons, un peu partout au Québec, il y avait ce genre de petit slogan pour encourager la population. Vous vous souvenez, c'était quoi? Ça va bien aller! Ça va bien aller! Alors, l'intention était bonne, c'était de rassurer la population. Mais savez-vous que parmi ceux qui ont affiché cette phrase sur leurs fenêtres, certains sont tombés malades et d'autres sont morts? Ça va bien aller. L'espérance que ces petites affiches donnaient était basée sur rien de solide, en fait. Les Québécois avaient beau se répéter que tout allait bien aller, c'est pas pour autant qu'en réalité tout s'est bien passé pour eux. Verset 19 nous dit que notre espérance, ce n'est pas de l'autosuggestion ou de la pensée positive. Notre espérance est solide parce qu'elle s'appuie sur les promesses et le serment de Dieu de qui il est dit « c'est impossible qu'il mente ». Une espérance comme le roc, aussi solide que Dieu lui-même. Alors la première image, celle de l'ancre, nous permet de savoir que notre espérance ne va jamais nous décevoir. Jamais. C'est sûr, c'est du solide. Deuxième image, très parlante également. C'est l'image du temple. Dans l'ancienne alliance, il fallait traverser le voile pour passer du lieu saint au lieu très saint et entrer dans la présence même de Dieu. Une fois par année, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, jouissait de ce privilège-là. Je lis versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors nous, notre grand prêtre permanent et éternel, Jésus, semblable à Melchisédek, il est entré dans la présence même de Dieu au ciel, et c'est en lui et par lui que nous aussi on a l'assurance d'entrer dans sa présence un jour. Et je dirais même qu'il y a un sens où notre âme est déjà dans sa présence. Éphésiens 2 nous dit que Dieu nous a déjà fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. Mais bientôt, très bientôt, et j'espère que vous l'attendez, très bientôt notre corps glorifié va y être aussi. Est-ce que vous croyez ça? Verset 20 nous confirme que là où Jésus est en ce moment, on va y être pour toujours. Il est notre précurseur, les prémices de ceux qui vont ressusciter, le premier fruit. Il a ouvert une route nouvelle et vivante au travers de sa chair. On a une espérance vivante par sa résurrection, une espérance céleste. Notre ancre est accrochée dans le ciel. Une espérance qui nous invite à regarder aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu, Colossiens 3. Alors l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, Paul nous dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Est-ce que vous êtes chrétien juste pour espérer en Christ maintenant, pour cette vie-ci? Mes amis, quand on est chrétien, on ne plante pas les pieux de notre tente trop profondément. Parce qu'un jour, il va falloir lever le camp au son de la trompette de Dieu. Notre vraie patrie est au ciel, d'où nous attendons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean va plus loin dans sa première lettre. L'apôtre Jean affirme enfin que ceux qui ont l'espérance de voir Jésus face à face un jour et d'être transformés à son image, à sa ressemblance, Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 3, qu'ils se purifient comme lui-même est pur. Voyez-vous, une espérance qui a un effet sanctifiant dans nos vies. L'espérance d'Abraham lui a permis d'attendre patiemment la réalisation des promesses de Dieu. Certaines se sont réalisées de son vivant. Il a vu son fils Isaac, mais d'autres non. Il les a salués de loin. Mais rien n'a jamais pu le faire bouger de sa position. Il était ancré en Dieu, dans sa parole et dans son caractère. Je vais conclure maintenant. En terminant, j'aimerais qu'on réfléchisse à ce qui constitue l'objet de notre espérance à nous. Hein? Voir Jésus face à face, la nouvelle Jérusalem, être délivré pour toujours du péché. Et qu'on se pose les questions suivantes en demandant au Seigneur de sonder nos cœurs. Première question. Vous arrive-t-il parfois de méditer sur le retour de Jésus? Est-ce que vous aimez son avènement, comme nous dit l'apôtre Paul dans une de ses lettres? Deuxième question. Pensez-vous parfois à ce que ça va être pour vous de le voir face à face? De ne plus jamais pécher, de ne plus jamais souffrir, d'avoir un corps de résurrection. Troisième question. Est-ce que de temps en temps, cette prière monte dans votre cœur? Maranatha! Viens, Seigneur Jésus, Apocalypse 22. Viens, Seigneur Jésus. Ça vous arrive de prier comme ça? Quatrième question. À quoi ressemble votre espérance aujourd'hui? Est-ce qu'elle est vigoureuse? Est-ce qu'elle est faible? Est-ce qu'elle a besoin d'être nourrie? À quoi ressemble votre espérance aujourd'hui? Alors, permettez-moi de lire une des prières de l'apôtre Paul avant que l'on termine le message. C'est la prière dans Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 23. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? On va terminer ici, on va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour l'espérance que tu nous donnes, une espérance vivante, une espérance qui ne trompe pas, une espérance solide, sûre, certaine, une espérance qui nous accroche au ciel comme une ancre. Merci Seigneur d'être un Dieu qui ne peut pas mentir. Et tout ce que tu nous donnes d'espérer, tu vas le faire. Au nom de Jésus. Amen.